Donc, on avait terminé la semaine passée les visions nocturnes de Zacharie. Puis, j'ai pensé qu'on commencerait avec l'Épître aux Hébreux. Donc, on va commencer cette semaine avec une introduction de l'Épître aux Hébreux. Puis, ça fait que je vais commencer en lisant le premier chapitre de l'Épître aux Hébreux. Puis, ensuite de ça, on avancera dans faire une introduction de cette étude-là. Donc, l'Épître aux Hébreux, le premier chapitre, on va lire le chapitre en entier pour notre introduction. Ensuite de ça, on va faire l'introduction de l'Épître. Hébreux, chapitre 1, verset 1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père. Il sera pour moi un fils. Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Le Seigneur va ajouter une bénédiction à la lecture de sa parole ensemble ce soir. Donc, on va peut-être demander au Seigneur de nous aider dans cette étude. Seigneur notre Dieu, on se courbe devant toi encore parce que ta parole, Seigneur, tu nous l'as donnée, mais tu nous as aussi donné ton esprit, afin qu'on puisse comprendre les choses que tu as voulu que des hommes écrivent. Oui, des hommes les ont écrits, mais poussés par le Saint-Esprit. On te remercie, Seigneur, parce qu'on a besoin de ta parole, parce que tu nous dis dans ta parole que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Eh bien, Seigneur, on est devant toi dans l'attente. On te demande, Seigneur, de nous instruire, de nous faire voir ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, à travers les Écritures. On t'en rend grâce. C'est dans son nom précieux qui nous a enseigné de te prier. Et oh, Amen. OK, donc on est dans l'Épître aux Hébreux, puis c'est sûr qu'il y a une question souvent qui se pose toujours, c'est qui a écrit l'Épître aux Hébreux? Bien, on ne sait pas. Le Saint-Esprit ne nous l'a pas laissé savoir, puis ce n'est pas nécessairement ça qui est important. C'est sûr que des fois, on dit, ça ressemble au style de Paul, mais c'est quelqu'un quand même qui connaissait beaucoup le système lévitique dans l'Ancien Testament, mais on dira pas, on fera pas de spéculation qui l'a écrit, mais ce qui est important, on sait une chose, que celui qui était derrière l'écrivain, qui a poussé pour écrire ces choses-là, c'est le Saint-Esprit, parce que c'est la parole de Dieu, puis c'est la parole de Dieu qui s'adresse à nous. C'est sûr que quand on parle de l'Épître aux Hébreux, on dit que c'est un épître qui s'adresse aux Hébreux. Puis, c'est écrit avant, juste pas longtemps avant la destruction du temple à Jérusalem, quand le système lévitique, les sacrifices étaient encore en fonction, avant que le temple soit détruit. Puis, il y avait une compétition dans un sens entre le système judaïque, le système lévitique des sacrifices, la religion juive, et maintenant le Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'Épître s'adressait à des Hébreux qui avaient professé, mais qui était en danger de retourner en arrière. Puis le Saint-Esprit a cru bon de donner une épître pour bien clarifier que le Seigneur Jésus était au-dessus de tout le système judaïque, le système de sacrifice, qui était seulement une ombre des choses à venir. mais la vérité était en Christ. Toutes ces choses-là représentaient le Seigneur Jésus. Et du fait que le Seigneur Jésus, maintenant, était venu, avait accompli toutes ces choses-là, maintenant, il fallait laisser ces choses derrière pour sortir du camp, pour aller vers le Seigneur Jésus-Christ. On parle du camp religieux, pour aller vers le Seigneur Jésus-Christ, qui était l'accomplissement de toutes ces choses que eux ils connaissaient dans la pratique, dans le système judaïque. Donc, parce que ça s'adressait aux Hébreux qui avaient professé, qui étaient en danger de retourner en arrière, de retourner à ce qu'ils avaient auparavant dans leur religion. Vous savez, c'est toujours difficile pour quelqu'un de laisser une religion pour aller vers le Seigneur Jésus. Puis même, on voit ça souvent, hein, souvent quand on parle du Seigneur Jésus aux gens, quand on leur présente l'Évangile, ils vont nous dire souvent, ah, j'ai ma religion. Mais moi, je leur dis, c'est pas la solution, c'est le problème d'avoir sa religion. C'est parce qu'il faut laisser pour se tourner vers le Seigneur Jésus. On sait que les Écritures, comme on dit, c'est une expression qu'on dit, les Écritures sont christocentriques. Ça veut dire que toute l'Écriture nous centre vers le Seigneur Jésus. Puis une bonne pratique pour comprendre l'Écriture, c'est de toujours rechercher à voir le Seigneur Jésus dans l'Écriture. Parce que l'Écriture nous le présente d'une façon qu'on, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, l'Écriture nous pointe vers le Seigneur Jésus. C'est lui qui est le point de mire. C'est vers lui qu'on doit tourner les regards. Puis ça, c'est important. Donc, les Écritures sont christocentriques, mais nul livre, il n'y a aucun autre livre dans le Nouveau Testament ou dans l'Ancien Testament qui exalte le Seigneur Jésus-Christ comme l'Épître aux Hébreux. Ça nous fait ressortir, on va voir ça en avançant, comment ça démontre la supériorité du Seigneur Jésus à toutes ces choses-là. Puis, donc, on pourrait dire que cette épître s'adresse aux chrétiens hébreux et non à nous. Mais c'est sûr que les épîtres, les Écritures, comme les épîtres, étaient adressées des fois à une église ou à une personne. Mais on peut quand même en faire notre part. On peut quand même, ça s'adresse quand même à nous. C'est des instructions qui sont à nous. Puis, quand le Seigneur Jésus est exalté, puis qui est élevé comme cela, là, ben, c'est aussi pour notre édification, pour notre encouragement, puis on peut en tirer profit. Toutes ces choses qui ont été écrites dans l'Épître aux Hébreux, même si ça s'adressait aux Hébreux qui étaient en danger de retourner en arrière, de retourner à ce qu'ils avaient laissé, ben, ces instructions-là sont bonnes pour nous aussi parce qu'elles nous font voir le Seigneur Jésus d'une manière plus grande, une plus grande appréciation du Seigneur Jésus. Donc, c'est un peu comme qu'est-ce que Paul faisait avec les Galates. Hein? Il leur disait dans Galates 3:1, ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné? Le mot fasciné, là, ça veut dire comme jeter de la poudre aux yeux. C'est une expression que nous, on dit, quand on se fait jeter de la poudre aux yeux, ça veut dire qu'on fait détourner notre attention vers quelque chose d'autre. Puis Paul leur disait ici, ô Galates dépourvus de sens, qui vous a détourné votre attention ou qui vous a fasciné? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Paul se présentait un petit peu ici comme un artiste qui avait peint un portrait du Seigneur Jésus, puis pas juste un portrait du Seigneur Jésus, mais un portrait du Seigneur Jésus crucifié. Puis il les avait, avec ça, il les avait amenés à regarder au Seigneur Jésus, puis là, tout d'un coup, ils regardaient à la loi. Ils s'étaient détournés, ils avaient retourné en arrière aussi. Il avait perdu de vue le Seigneur Jésus-Christ que Paul avait dépeint devant leurs yeux, puis là, il les ramène à l'ordre, il les ramène à regarder au Seigneur Jésus. Puis c'est la même chose aussi dans l'Épître aux Hébreux, mais c'était ces gens-là pour ne pas qu'ils soient fascinés ou qu'on leur jette de la poudre aux yeux pour détourner leur attention du Seigneur Jésus qui leur avait été présenté, qui était l'accomplissement de tout ce système judaïque ou le système lévitique. Les sacrifices, puis maintenant qu'il l'avait vu, ben, il ne fallait pas retourner en arrière. C'est important. Donc, l'Épître nous montre vraiment que tout le système judaïque, les sacrifices lévitiques, sont remplacés maintenant par la réalité en Christ. Puis c'est important que cette Épître-là leur arrive à ce moment-là parce qu'on sait qu'elle a été écrite environ en 68 de notre ère. Mais après le Seigneur Jésus-Christ, mais on sait qu'en 70, le temple a été détruit Puis tout le système lévitique, tous les sacrifices ont cessé parce qu'ils n'ont plus le temple. Aujourd'hui, les Juifs ne sacrifient plus parce qu'ils n'ont pas un temple. Ils ont des synagogues, ils se réunissent, ils vont lire la parole de la Torah, ces choses-là, mais ils ne font plus de sacrifices. Ils vont commencer à faire des sacrifices, on voit quand ils vont voir le temple de nouveau dans la tribulation, ils vont commencer à sacrifier, puis aussi dans le millénium. Mais il faut qu'il y ait le temple. C'est important pour eux, ils ont besoin du temple, de l'autel, puis pour pouvoir sacrifier à l'Éternel. Mais maintenant, tout ça est remplacé. C'était pour le Saint-Esprit voulait leur montrer que tout le système lévitique, avec tous les sacrifices, toutes les choses qui s'y faisaient, était maintenant remplacé par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, ayant le Seigneur Jésus, on n'a plus besoin de ces choses-là. Le Christ est suffisant pour toutes ces choses. C'est pour ça qu'il montrait là-dedans que le Christ est supérieur étant homme, mais aussi étant Dieu. Dieu fait homme. Puis c'est là qu'on voit le fait que le Seigneur Jésus est au-dessus, parce que le fait qu'il est Dieu, eh bien, il surpasse tout, là. C'est Dieu qui a été manifesté dans la chair, qui est venu accomplir l'œuvre de rédemption. Puis toutes ces choses-là de l'Ancien Testament, c'est vraiment l'accomplissement se trouve en Jésus-Christ, parce que ces choses-là, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps maintenant est en Christ. C'est bon en lisant l'Épître aux Hébreux, de lire aussi en parallèle le livre des Lévitiques, parce qu'on voit là-dedans qu'il y a beaucoup des choses du Lévitique qui sont montrées comme étant remplacées maintenant par le Seigneur Jésus. Le mot clé dans l'Épître qu'on trouve là, c'est en grec, c'est caisson, mais qui est traduit de différentes façons à travers l'Épître. On va voir, il est traduit parfois par meilleur, parfois par mieux, parfois par supérieur ou plus excellent. On va regarder ça dans l'Hébreu, l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1, verset 4. On le voit ici, il est dit, il est devenu d'autant supérieur. Donc, c'est ce mot-là, supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Dans le chapitre 6, au verset 9. Dans le chapitre 6, au verset 9, c'est un mot qui revient constamment, là. Il dit, quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures. Donc, encore là, c'est le mot qui est centre. C'est des choses meilleures et favorables au salut. Maintenant, si on va au chapitre 7 et le verset 7, il dit, or c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Le mot supérieur ici, c'est le mot aussi qui a été traduit par le mot supérieur. Dans le verset 19, il dit, car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance. Voyez-vous, on a encore le mot ici qui est traduit meilleur, par laquelle nous nous approchons de Dieu. Le verset 22, il dit, Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. C'est encore ce mot-là qui est traduit ici par plus excellente, le même mot. Si on va dans le chapitre 8, au verset 6, il dit, mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur, là, on a encore le mot ici, il est traduit par supérieur, qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Donc, on voit toujours que ce mot-là, l'excellence, plus excellence, supérieur, meilleur, mieux, on voit aussi dans le chapitre 9, au verset 23. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le soient par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Donc ici, traduit par plus excellent. Dans le chapitre 10, au verset 34, il est dit, en effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs. D'accord, le mot est traduit ici par meilleur et qui dure toujours. Dans le chapitre 11, au verset 16, il dit, mais maintenant, ils en désirent une meilleure. En parlant d'une cité, ils en désirent une meilleure. Ici, le mot était traduit par meilleur, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Ensuite, de ça, on a au verset 35. Dit des femmes, il parle de ceux qui sont morts, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'accord, là, c'est le même mot qui est traduit ici par meilleur. Au verset 40, 11, 40, il dit, Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Fait qu'on voit ce mot-là revenir constamment à travers l'Épître, parce qu'il nous appelle à laisser derrière ce qui est moindre pour prendre, de regarder à ce qui est meilleur, ce qui est supérieur, ce qui est plus excellent. Toujours, vous savez, quand on fait une transaction, si on fait un échange, c'est toujours une bonne chose d'échanger pour quelque chose de meilleur. Si on échange pour quelque chose de pire, ben, c'est une dégression. Tandis que si on échange pour quelque chose de meilleur, ben, c'est une amélioration. C'est ce qu'ils sont invités ici. Donc, nous aussi, on est invités à se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. On y voit dans l'Épître que le Seigneur Jésus-Christ est supérieur aux anges, il est supérieur à Moïse, il est supérieur à Josué, il est supérieur à Aaron. Donc, on voit tout ça, c'est ce qui était du peuple d'Israël, hein. Il y avait les anges qui étaient, on voit souvent les anges agir en faveur d'Israël. Nous, on est encore meilleur que ça, on a le Saint-Esprit qui agit pour nous. Puis, on pense à Moïse qui était le conducteur pour faire sortir la nation d'Égypte de l'esclavage pour les emmener dans la terre promise. Ben, le Seigneur Jésus-Christ est supérieur à Moïse. Josué qui, lui, les a fait entrer dans le pays de la promesse pour leur donner la victoire sur les habitants du pays, eh bien, le Seigneur Jésus-Christ est supérieur à Josué. Il est plus excellent, il est meilleur. Puis Aaron, qui était le souverain sacrificateur, le Seigneur Jésus, lui, il est supérieur aussi à Aaron. Quand le Seigneur Jésus a officié sur la terre, parce que le Seigneur Jésus s'est fait homme, il a pris une chair humaine, il est né comme un enfant, il a été incarné dans le sein de Marie, le Saint-Esprit l'a conçu, puis il est né dans ce monde comme un bébé qui a grandi, comme puis un monde qui est devenu un homme. Mais quand le Seigneur Jésus était ici sur la terre, qui a officié sur la terre, c'était un homme glorieux. Imaginez-vous du ciel. Quand on regardait ici sur la terre, on voyait vraiment ici un homme parfait, mieux que Adam. Adam est un homme innocent, mais le Seigneur Jésus est un homme impeccable. Ça veut dire que Adam pouvait pécher et la preuve, c'est qu'il a péché. Et nous, on a tous péché, mais le Seigneur Jésus, lui, c'était impossible. Étant impeccable, c'était impossible pour lui de pécher parce qu'il est Dieu manifesté dans la chair. Ce que, imaginez. Quand le ciel regardait sur la terre, puis qu'il voyait un homme impeccable, un homme glorieux, officier sur la terre, on sait que le ciel a plongé les regards sur cet homme qui faisait la volonté de Dieu. C'était comme un délice de voir cet homme marcher sur la terre du ciel. On pouvait l'observer, puis les cieux s'ouvrirent. On le voit dans Matthieu 3, les versets 16 à 17, il dit, dès que Jésus eut été baptisé, c'est quand il a commencé son ministère public. Il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc c'était, on voit vraiment que le ciel s'ouvre pour voir cet homme impeccable, cet homme glorieux, cet homme qui jamais ne va déroger. Dans l'obéissance à son Père, il va marcher, puis il va faire la volonté de son Père. Il pouvait dire, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Mais le ciel était intéressé de voir cet homme-là marcher sur la terre, cet homme qui était tout glorieux. On va aller dans 1 Pierre, regardez votre doigt dans Hébreu, on va aller dans 1 Pierre au chapitre 1, on voit que les anges désiraient voir ces choses-là. 1 Pierre 1, les versets 10 à 12. 1 Pierre 1, les versets 10 à 12. Il dit, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Donc, c'est un sujet très intéressant parce que les prophètes, ils ont cherché, ils ont fait une investigation concernant le salut, l'objet de leur recherche, de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Voyez-vous, quand le ciel est ouvert, le ciel regarde en bas, le ciel voit sur la terre un homme glorieux, le seul que la terre a pu porter, un homme parfait. C'était Dieu manifesté dans la chair. Eh bien, maintenant, dans l'Épître aux Hébreux, ce qu'on voit, c'est que le ciel s'ouvre, mais dans l'autre direction, dans l'autre sens, pour que nous puissions maintenant contempler l'homme glorifié, officiant dans les cieux, parce que le Seigneur Jésus est mort selon les Écritures, il a été enseveli, puis il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et il est monté à la droite de la majesté divine. Donc maintenant, celui qui était sur la terre, cet homme parfait, cet homme glorieux, cet homme obéissant, cet homme impeccable, qu'on a pu voir marcher sur la terre du ciel, maintenant, nous, on le voit, les hommes ont pu le voir monter au ciel dans la gloire. Puis nous, maintenant, on peut regarder au ciel pour voir ce même homme qui était sur la terre. Parce que le Seigneur Jésus est monté avec son corps. Il est ressuscité avec son corps, puis il est monté avec son corps dans la gloire. Il y a un homme maintenant dans la gloire. Puis c'est contraire à ce que certains enseignent que le Seigneur Jésus est ressuscité seulement en esprit. Non, le Seigneur Jésus, quand il a ressuscité, il a pu dire au ciel, vous voyez, venez toucher moi. Un esprit n'a ni os ni chair comme vous voyez que j'ai. Puis il a mangé avec eux, ils l'ont vu, ils l'ont touché, puis il est monté au ciel, ils l'ont vu monter au ciel jusqu'à ce qu'une nuée le dérobe à leurs yeux. Donc maintenant, ce même homme qui était sur la terre, qui a été vu du ciel sur la terre, maintenant il est monté au ciel, puis nous qui sommes sur la terre maintenant, on peut le regarder officier dans le ciel. Les cieux, puis c'est ce qui arrive dans l'Épître aux Hébreux. C'est que maintenant, les cieux s'ouvrent de l'autre sens pour que nous, on puisse contempler le Seigneur Jésus. C'est pour ça qu'il est tellement supérieur, pour qu'on puisse contempler l'homme glorifié qui officie maintenant dans le ciel. Le Seigneur Jésus s'est sanctifié, c'est-à-dire qu'il s'est mis à part pour prier pour nous conduire. Il est la tête de l'Église. Il fonctionne ici sur la terre des cieux. Il conduit son Église. C'est lui qui a pu dire, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Puis le Seigneur Jésus, il officie, il prie pour nous aussi, il intercède pour nous, comme on le voit dans Jean 17 qui intercédait pour nous. Le Seigneur Jésus intercède pour nous. Le Seigneur Jésus est dans le ciel maintenant à nous préparer une place au moment donné, au son de la trompette. Le Seigneur Jésus va revenir sur la nuée, il va nous recevoir, on va partir à la rencontre du Seigneur sur la nuée, il va nous transformer complètement, puis on va être dans sa présence, il va nous introduire dans la maison du Père. Donc maintenant, nous, on le voit officier dans les cieux, par la foi. On ne voit pas de nos yeux de chair, mais l'Épître aux Hébreux nous ouvre une porte, nous fait voir dans le ciel comment le Seigneur Jésus est en train d'officier pour nous dans la présence du Père. Donc, à la lumière de ces choses-là, on sait que c'est des grandes choses qui nous sont révélées ici, là. Puis à la lumière de ces choses que l'Épître contient de très sévères avertissements. Vous savez, toujours avec des privilèges vient des responsabilités. Puis c'est pour ça que l'Épître contient vraiment des avertissements qui sont sévères. Les privilèges apportent des responsabilités. Donc, c'est important de réaliser ça. Dans le chapitre 2, dans le chapitre 3, dans le chapitre 4, dans le chapitre 6, dans le chapitre 10, on voit il y a des graves avertissements qui sont sérieux. Le Seigneur nous donne des grands avertissements. Dans le chapitre 2, au verset 1, il nous dit de s'attacher fermement aux choses entendues. Vous savez, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on perd. Les gens ne s'attachent plus aux choses qu'on a entendues. Ça devient, comme il nous dit dans la parole, achète la vérité, ne la vends pas. Puis, mais il y a des gens qui, pour eux, ces choses-là ne sont pas importantes. Ils ne s'attachent pas à ces choses-là. Nous, on doit s'attacher aux choses qu'on a entendues. Puis ça, c'est un avertissement, comme pour les Hébreux ici, les choses qu'ils avaient entendues, c'est-à-dire l'Évangile, de notre Seigneur Jésus-Christ qui pouvait les libérer. Mais ces choses qu'ils avaient entendues, ils devaient s'y attacher fermement. C'est ça la vie chrétienne. Il faut s'attacher aux choses qui sont importantes. Dans le chapitre 3, il nous dit de considérer l'apôtre sans endurcir son cœur pour obéir. Le mot apôtre veut dire un envoyé. Bien, il nous dit de considérer l'apôtre, celui qui a été envoyé de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est Dieu manifesté dans la chair. Il nous dit de considérer l'apôtre sans endurcir son cœur. Vous savez, quand on endurcit notre cœur, là, qu'est-ce qui arrive, c'est que ces choses-là sont plus précieuses. On devient rebelle, puis au lieu d'être obéissant. Mais si on laisse notre cœur être touché, ça nous donne d'obéir. Donc, considérer l'apôtre sans endurcir son cœur pour obéir. Le chapitre 4, il nous dit de craignons, empressons-nous d'entrer dans le repos, parce qu'il y a un repos qu'on verra dans le chapitre 3 et 4, mais il dit dans le chapitre 4, craignons ou empressons-nous d'entrer dans le repos. Puis il dit de demeurer ferme dans la foi, verset 11. Il dit, approchons-nous donc du trône de la grâce pour être secourus dans nos besoins. Donc, c'est tous des avertissements qui sont donnés à ces Hébreux-là qui avaient professé le salut, mais c'est bon pour nous autres aussi. Il faut garder, c'est sûr que pour les Hébreux, eux, ils avaient dû laisser le judaïsme. Mais nous, on a dû laisser aussi, pour la plupart, on a dû laisser une religion. Même si c'est notre propre religion, parce que tout le monde a sa religion, mais de laisser ces choses-là, c'est parfois pénible, c'est difficile. Mais quand on réalise que c'est pour quelque chose de meilleur, ben ça vaut la peine. Paul en a fait l'expérience, hein, on voit dans Philippiens, il dit, toutes ces choses qui étaient pour moi un gain, je les ai regardées comme de la boue à cause de l'excellence de Christ. Puis d'être trouvé dans sa justice, mais pas dans sa propre justice, mais dans celle qui s'obtient par la foi en Christ. Donc, pour ne jamais retourner en arrière, dans le chapitre 6, il dit, poussons vers la maturité, avançons dans la connaissance, afin d'hériter des promesses par la persévérance et ne pas retourner en arrière. Donc, il ne faut pas regarder en arrière, il faut regarder en avant, poussons vers l'avant. Puis dans le chapitre 10, il dit, approchons-nous donc avec un cœur sincère. Retenons fermement la profession de notre espérance, n'abandonnons pas notre assemblée, n'abandonnons pas notre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Et vous, il nous exhorte à rester attachés ici. C'est des graves avertissements ici qu'il donne, poussés par le Saint-Esprit, puis il faut faire attention de ne pas retourner en arrière. On sait que pour la plupart de nous autres, je pense qu'il y en a plusieurs de nous autres, ça fait un petit bout qu'on est sur le chemin, depuis qu'on a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur, peut-être 40, il y en a peut-être 50 ans, il y en a que ça peut faire 30 ans, 20 ans qu'on est dans le Seigneur. Mais je pense que c'est notre expérience à chacun d'avoir vu des gens qui ont été à nos côtés, qui avaient la même pensée que nous, puis qui avançaient, puis maintenant ils ne sont plus là. Ils se sont détournés. Je me souviens une fois, on était à Saint-Anne-des-Monts, puis on était, je pense, c'est comme cinq frères. Il y en avait à ce moment-là qui s'étaient détournés. Des gens qui avaient professé, au début de notre vie chrétienne, puis qui avaient marché avec nous autres, qui avaient participé, puis là, ils étaient retournés dans le monde. Puis il y a un de nous autres qui avait dit, il dit, moi, ça me fait quelque chose de voir qu'eux se sont détournés. Mais il dit, ça me ferait encore un plus grand problème. Plus grande peine de voir qu'un de nous autres, il parlait de ceux qu'on était là, je pense qu'on était cinq, il a dit qu'un de nous autres se détourne du Seigneur. Ben, c'est lui qui s'est détourné du Seigneur. Puis il me dit, de la même façon, on peut dire, est-ce que ça ne nous fait pas de la peine à nous autres de voir ceux qui se sont détournés? Ben oui, ça nous fait de la peine. Il était avec nous autres, puis c'est pour ça que je pense qu'on a vu ces choses-là se produire. Des gens qui marchaient avec nous, puis pour une raison quelconque, maintenant, ils se sont détournés, puis ils sont dans le monde. Est-ce qu'ils sont sauvés? S'ils étaient sauvés, ils sont encore sauvés. S'ils n'étaient pas sauvés, bien là, c'est sûr. Mais on parle de des prodigues. Il faut faire attention parce que si on a continué, c'est par la grâce de Dieu. C'est le Seigneur qui nous a gardés. On ne peut pas s'en glorifier parce que chacun de nous autres peut se détourner. C'est pour ça qu'il y a des avertissements. Il faut faire attention. Il ne faut pas retourner en arrière, il faut aller de l'avant, il faut garder notre vision à la bonne place. C'est ça qui va être important. Voyez-vous, c'est sûrement eux à cause des difficultés. Hein, ils ont arrivé des difficultés. Je parlais avec quelqu'un qui s'était détourné. Ah ben, c'est toute l'Assemblée. Puis, il y avait une sœur dans l'Assemblée que je savais très bien, qui ne pouvait rien dire de mauvais contre elle. J'ai dit, elle aussi, ils ont dit, non, ben pas elle. Ah ben, j'ai dit, comme ça, c'est pas toute l'Assemblée d'abord. C'est sûr qu'on a vécu des expériences, on a pu blesser des gens, comme des gens ont pu nous blesser, mais si on ne surmonte pas ces difficultés-là, qu'est-ce qui va arriver? C'est le danger de retourner en arrière. C'est le danger de se détourner, de délaisser. C'est là les avertissements qui sont importants. Aussi, ce n'est pas une question d'être sauvé puis perdu, c'est pas ça. Mais c'est de vraiment perdre la jouissance de cette communion-là avec le Seigneur, si on est sauvé. Puis ça peut arriver, comme il y a des gens qui ont été éloignés du Seigneur pendant des années, beaucoup d'années, puis qui sont revenus. C'est difficile pour nous des fois. Des fois, il y a des gens qui me demandent, ben, penses-tu qu'il est sauvé? Ben, je dirais, si tu m'avais demandé, je le disais, je n'aurais pas hésité à te dire qu'il est sauvé. Si tu me demandais maintenant, je n'hésiterais pas à dire qu'il n'est pas sauvé. Mais je ne sais pas. C'est le Seigneur qui le sait. Mais l'avertissement pour nous est grand. Faisons attention de ne pas se détourner. Vous savez, quand on se détourne, on prend une petite embardée, puis après ça, on s'éloigne de plus en plus. Puis on oublie. C'est ça qui est important. C'est pour ça qu'il faut retenir fermement les choses qu'on a apprises, qu'on a reconnues certaines. C'est important. Mais on voit dans Hébreux 3, les versets 12 à 13. Hébreux 3. Les versets 12 à 13, il nous dit ici, prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Vous savez, c'est un peu comme au front, là. Moi, je ne suis pas allé au front, je n'ai pas été à la guerre, mais ceux qui sont allés au front, là, ils ont vu peut-être des fois leur compagnon de combat là, être blessé. Qu'est-ce qu'ils font? Ils l'apportent sur leur dos, ils vont faire des efforts ultimes pour pouvoir l'emmener à la sécurité. Ben, des fois, ce n'est pas possible, des fois, ils sont morts, mais on voit qu'il y a des gens qui ont vraiment fait des efforts ultimes pour essayer d'amener avec eux leurs compagnons de combat, en sachant que si ça avait été eux, leurs compagnons auraient fait la même chose pour eux. Ben, c'est comme ça qu'on est. On est dans un combat à la vie, à la mort, puis il faut prendre soin les uns des autres. Il faut vraiment s'exhorter, comme il dit ici, là, de s'exhorter pour pas qu'on s'endurcisse par la séduction du péché. Puis ça, c'est vraiment un grand piège pour nous. Mais on voit que c'est sûr qu'il se réfère à l'exemple des Hébreux ici, mais dans Nombre 21, au verset 4 et 5, vous n'avez pas besoin de tourner, je vais vous le citer, où je l'ai ici décrit. Ils partirent de la montagne, ça c'était le peuple d'Israël, ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatientait en route, puis même on pourrait dire qu'il s'impatientait à cause de la route, parce qu'il n'aimait pas la route que le Seigneur leur avait fait prendre. C'est le Seigneur qui les a dirigés dans cette route-là, mais eux, ils n'aimaient pas cette route-là. Ils auraient pensé une façon plus facile de se rendre au même endroit. Le peuple s'impatientait en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Ça, c'est vraiment, là, combien blessant ça pouvait être pour le Seigneur d'entendre ces murmures-là, là, qui disent, on est dégoûté de cette misérable nourriture. De quoi qu'il parlait? Ben, il parlait de la manne. Puis il parlait, il disait qu'on n'a rien à boire. Il parlait de l'eau qui avait sorti du rocher. C'est pour ça que le pain, c'était la manne. Puis la manne, c'est un type du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, on est rendu des fois à un point que les gens n'aiment plus entendre parler du Seigneur Jésus-Christ. Des fois, même dans les milieux chrétiens, on n'aime plus, on a trouvé quelque chose de meilleur. On a trouvé des choses meilleures que le Seigneur Jésus? Jamais. On doit toujours s'entretenir du Seigneur Jésus. Puis l'eau qui coulait du rocher, qui les suivait, 1 Corinthiens 10, 1 à 5, il nous dit que il y avait un rocher qui les suivait, puis ce rocher était Christ. Donc, c'est d'en venir à plus être satisfait du Seigneur Jésus. Mais comment on peut ne plus être satisfait du Seigneur Jésus? Ben, c'est quand on arrête de s'en nourrir. Parce qu'il dit, sentez et goûtez que le Seigneur est bon. Quand on vient s'abreuver au Seigneur, quand on vient se nourrir du Seigneur, il est toujours bon. Pour eux, au début, ils disaient que la manne avait le goût d'un gâteau de miel. Puis en dernier, c'était une nourriture dégoûtante. Faut faire attention, faut garder nos cœurs. Mais c'est quoi qui empêche de pouvoir goûter la bonté du Seigneur? C'est la séduction du péché. C'est la séduction. Il faut se séparer du péché, puis goûter que le Seigneur est bon. Puis plus on va goûter que le Seigneur est bon, bien plus on va se détourner du péché pour en avoir plus. Puis c'est ça qui est important, c'est ça qui était mentionné ici pour eux autres. Donc ils n'étaient plus satisfaits de Christ qui nous garde dans la course malgré toutes les difficultés. Pourquoi? Parce que lui en vaut la peine. C'est parce que lui en vaut la peine qu'on peut surmonter toutes les difficultés pour rester près de lui, là. Vous savez, Satan va toujours essayer de ramener en arrière ceux qui se sont tournés vers le Christ. C'est sûr qu'on lui a échappé. Quand on a mis notre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ pour être sauvé, ben, on lui a échappé. Mais s'il ne peut pas nous perdre, il ne peut plus nous perdre maintenant parce que le Seigneur Jésus a dit, je leur donne la vie éternelle et ils ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Puis il dit, le Père qui est plus grand que moi et personne ne peut les ravir de la main du Seigneur. On est en pleine sécurité maintenant. L'ennemi ne peut plus nous perdre. On est sécure pour l'éternité, mais il peut nous faire perdre la joie de notre salut. Il ne peut pas nous faire perdre notre salut, mais il peut nous faire perdre la joie de notre salut. C'est pour ça qu'il faut s'exhorter, il faut s'encourager, il faut rester ferme dans la voie, toujours goûter comment que le Seigneur est bon. Vous savez, pour les Hébreux, à ce moment-là, ben, les autorités juives ont utilisé deux moyens pour essayer de les faire revenir. Le premier, c'est de rendre les services religieux du temple aussi attrayants que possible. Hein, voyez-vous comment c'est beau? Puis la religion, c'est ça. Hein, la religion, on en met plein la vue. On essaie de montrer des belles choses au point de vue terrestre, au point de vue des yeux. Nous, on ne marche pas par la vue, mais par la foi. Il y a un frère à l'île du Prince-Édouard qui est aveugle, puis il dit toujours ça. Il dit, moi, je ne marche pas par la vue, je marche par la foi. Mais parce qu'il n'y a pas la vue. Mais c'est les choses de la terre ici. Puis c'est ça puis même des fois dans les milieux évangéliques, on essaie de nous donner des choses qui nous éblouissent au lieu du Seigneur Jésus. Faut jamais tomber dans le piège. Fait que, il essayait de rendre les services religieux plus attrayants pour attirer les gens. Puis c'est ça, on n'essaie pas souvent d'attirer les gens par l'Évangile. Paul avait dit, j'ai pas voulu savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, puis folie pour les païens. Donc, c'était pas avec une supériorité de langage que Paul était allé vers eux. C'était avec l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Puis, si on attire des gens par n'importe quoi d'autre, puis qu'on peut remplir des bâtisses, qu'est-ce que ça va donner s'ils finissent dans les temps de feu? C'est vraiment terrible de faire ça à du monde. De les faire sentir bien au point de vue religieux, mais pas sauvés. Donc, l'important, c'est quoi? C'est l'Évangile. Le Seigneur Jésus qui est mort sur la croix pour nos péchés, qui est ressuscité pour notre justification. Donc, un des moyens qu'ils prenaient les autorités juives, c'était de rendre les services religieux du temple aussi attrayants que possible pour attirer les gens, pour qu'ils reviennent. Parce que pour eux, c'est comme une défaite, c'est comme un défi qui leur est lancé, hein? Parce que je me souviens, moi, quand j'étais sauvé, puis j'avais dit au prêtre de notre village, il dit, toi, tu vas me dire que je suis dans l'erreur. Il dit, moi, j'ai 7 ans d'université, puis 27 ans de prêtrise, puis tu vas me dire que je suis dans l'erreur, voyez-vous? Parce que lui, il avait tout, ils ont la bâtisse, ils ont les peintures, ils ont les vitrails, ils ont les soutanes, les habits, ils ont toutes ces choses-là, l'or qui était là, qui était manifesté, puis c'est avec ça qu'il attire les gens, fait là. Puis il avait même dit que les chrétiens, ils les enterraient pas dans le cimetière. Hein, non, ils les mettaient en dehors du cimetière. Mais toutes ces choses-là, c'est quoi quand on a trouvé le Seigneur Jésus-Christ? Puis si de rendre les services religieux du temple plus attrayants que possible, ça ne fonctionnait pas, ben qu'est-ce qu'il faisait? Le deuxième moyen, c'était de persécuter ceux qui ne voulaient pas revenir en arrière. Donc, il les persécutait. Puis on le voit dans l'apôtre Paul. Comment l'apôtre Paul a persécuté à outrance les chrétiens parce qu'ils s'étaient détournés de la religion juive. Paul était vraiment zélé pour aller persécuter les chrétiens. C'est là qu'on dit l'expression, hein, il a trouvé son chemin de Damas. C'est là qu'il a reconnu que dans le chemin de Damas, le Seigneur Jésus s'est révélé à lui comme celui qu'il persécutait. C'était vraiment le nom du Seigneur Jésus qu'il persécutait en faisant mourir les chrétiens, ceux qui lui appartenaient. Mais Paul, celui qui était un persécuteur, était lui a tout laissé. Il dit toutes ces choses-là qui étaient pour moi comme un gain, je les ai regardées comme de la boue. Puis tous ces avantages de religion, il a tout jeté ça en arrière pour s'attacher au Seigneur Jésus-Christ. Puis lui, il est parti de persécuteur et est devenu un persécuté pour le même nom, le nom du Seigneur Jésus. C'est la même chose aujourd'hui, vous savez. On pense à les parents, les amis, souvent ils vont essayer de faire revenir en arrière. Nous, quand ça fait un bout de temps qu'on marche sur le chemin avec le Seigneur, puis qu'on a pris position, qu'on a démontré que vraiment il n'y avait rien à faire, qu'on n'allait pas retourner en arrière, mais à un moment donné, ils arrêtent d'essayer de nous faire revenir en arrière. Mais ils vont persécuter, hein, ils vont nous dire des choses, ils vont dire des choses que. Ils vont essayer de nous persécuter dans notre foi pour qu'on. Mais ça, si on est vraiment attaché, on regarde dans le Seigneur Jésus, là, ben, on ne tournera pas en arrière parce qu'on a trouvé meilleur. C'est ça qui est important. Donc, c'est la raison pour que. Ou le but de cette épître, c'est comme le soulignent les déclarations qu'on voit, il dit pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance. Hébreux 3, 6. Ça, c'est dans la participation, c'est dans la réjouissance de la communion avec le Seigneur. Il dit aussi, dans Hébreux 6, 1, il dit, c'est pourquoi tendons à ce qui est parfait. Littéralement, ça veut dire tendons vers la maturité. Donc, vers ce qui est parfait, tendons vers la maturité. Avançons toujours plus proche de la maturité. Grandissons dans cette chose qui est merveilleuse, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, la vie chrétienne, c'est un voyage vers la gloire, mais joncher un chemin jonché de difficultés. Ça, c'est normal. C'est l'appel qu'on a eu. Puis on le voit comme John Bunyan dans son livre qui a écrit Le voyage du pèlerin. Ben, c'est des difficultés, puis des difficultés tout au long du chemin. Puis, ben là, ça vaut la peine de faire ce chemin-là? C'est quoi qui fait que ça en vaut la peine? Ben, c'est le but. Le but, c'est d'arriver à cette cité céleste. Qui est enseigné. Donc, c'est important. Nous, on a un chef de file qu'il faut suivre, puis que on doit le contempler et le suivre. C'est pour ça que c'est important, parce que ceux qui présentent un christianisme qui est sans difficulté, mais ce n'est pas le vrai christianisme. Parce qu'on est en pays étranger, on est des étrangers, des voyageurs sur la terre, on va souffrir ici, on est appelé à souffrir pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui va nous donner de persévérer? Ben, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans le chapitre 12, verset 1 et 2, il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, après avoir énuméré toute une nuée de témoins dans le chapitre 11, donc il dit, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection, l'auteur et le consommateur de la foi. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Voyez-vous, c'est un chemin vers la gloire céleste, mais c'est jonché de problèmes. Faites-vous-en pas si vous êtes dans les problèmes. Au début de ma vie chrétienne, moi, je me demandais, je pensais que j'étais plus dans la volonté de Dieu parce que toutes les choses allaient de travers, c'était pire qu'avant. Mais j'ai appris avec la maturité que c'est normal, c'est pas grave. On s'en va dans le bon but, on va atteindre le but. Le Seigneur va nous garder. Puis lui, il est passé devant nous autres dans ces choses-là. Regardez aussi dans le chapitre 6, au verset 19 et 20, il dit. Chapitre 6, 19 et 20, cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Là, il y avait une image que les bateaux à voile auparavant, quand ils arrivaient dans un port, bien, ils ne pouvaient pas rentrer à voile dans un port. Puis il n'y avait pas de moteur dans ce temps-là pour rentrer dans le port. Avec un moteur, on peut entrer tranquillement. Mais qu'est-ce qu'on faisait quand il parle de l'ancre, ben, il prenait l'ancre du bateau avec un petit bateau. Puis il la rentrait dans le port, l'ancre, puis il l'attachait solidement dans le port. Puis avec les treuils, il tirait le bateau au port. Tranquillement. Fait que c'est ça, c'est l'image qu'on voit ici dans une ancre solide. C'est pas une ancre qui nous empêche de dériver. C'est une ancre qui est entrée dans les lieux célestes pour nous, puis il nous attire. On est ancré, on est attaché à lui, puis maintenant il nous amène, il nous attire dans les lieux célestes. C'est ça qui est l'ancre de l'âme sûre et solide. On l'attachait solidement dans le port, puis cette ancre-là, eh bien, en tirant avec les treuils sur les cordages, on faisait avancer le bateau tranquillement jusque dans le port. Puis c'est ça l'image qu'on voit ici là, de l'ancre sûre et solide qui est allée au-delà du voile pour nous. Elle est bien ancrée, puis on est attiré vers le port. Donc, c'est lui qui nous a ouvert la voie dans le chapitre 10, au verset 19 et 20. Dans le chapitre 10, verset 19 et 20, ici, ainsi donc, frère, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Donc, on a une libre entrée dans le sanctuaire. Puis c'est par la foi qu'on y entre présentement. C'est notre privilège de pouvoir le faire. Puis on voit que lui-même, il a connu les souffrances. Il sait de quoi on souffre. Le Seigneur a souffert plus que n'importe qui. Lui a connu les souffrances avant la gloire. Nous, on connaît aussi, on est appelé à souffrir avant la gloire. Dans Luc 24, 26, il disait, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Oui, nous autres, on peut souffrir, mais le Seigneur Jésus, oui, il a souffert de la main des hommes. C'est les souffrances qu'on peut voir, on a pu voir. Mais le Seigneur aussi, il a souffert aussi du fait qu'il a reçu le châtiment à notre place. Il a pris notre châtiment sur la croix à notre place. Puis ça, c'était une souffrance qui l'a amené à sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Mais il a pu dire que s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi, non pas toutefois ma volonté, mais que ta volonté se fasse. Puis le Seigneur Jésus a souffert. Il est allé au tombeau. Et il a été 3 jours et 3 nuits, et ensuite de ça, il est ressuscité. Puis là, maintenant, il est dans la gloire. C'est là qu'il nous appelle. Donc, il faut réaliser ces choses-là. Puis, il ne faut pas prêcher un évangile où on va dire aux gens, puis il y en a qui prêchent un évangile comme ça, que si vous acceptez le Seigneur, vous n'aurez plus de problème. Mais imaginez-vous que ces gens-là vont être désillusionnés, ce ne sera pas trop long, parce que quand on accepte le Seigneur, puis qu'on veut le suivre, là, on est sur un terrain étranger, bien. Il faut s'armer de savoir, de connaître que oui, il va y avoir des souffrances. Mais le but en vaut la peine. C'est ça qui en vaut la peine. John Bunyan, le Voyage du Pèlerin, démontre qu'il y a des difficultés tout au long de la route. Pourquoi? Il était en prison lui-même pour sa foi quand il écrit ces choses-là. Mais il ne faut pas laisser ces difficultés-là nous arrêter. C'est seulement en gardant les yeux sur celui qui a souffert et qui est dans la gloire maintenant qu'on va pouvoir persévérer, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, en échange de la joie qui lui a été réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Imaginez-vous, là. Moi, j'aime bien mieux souffrir dans le temps que dans l'éternité. Ceux qui vont souffrir dans l'éternité, ils souffrent même dans le temps. Il y a des souffrances qui sont à cause du péché, les hommes. On a toutes ces souffrances-là, mais nous, en tant que chrétiens, on a le privilège de souffrir pour le nom du Seigneur Jésus. Puis ça en vaut la peine. Je suis certain de mon coup que le moment après qu'on va rentrer dans la présence du Seigneur, on va dire, ça en valait la peine parce qu'il y a un poids proportionnellement éternel de gloire pour les souffrances qu'on vit maintenant. N'ayons pas peur de souffrir pour le Seigneur Jésus. Nous autres, on ne souffre pas tant que ça. Il y a des chrétiens dans des endroits qui meurent pour leur foi. Il y a des gens qui sont en prison pour leur foi. Il y a des gens qui souffrent de faim pour leur foi, de froid, de toutes sortes de façons, qui souffrent physiquement pour leur foi. Puis, dans la tour de Constance, il y avait quelqu'un qui avait écrit sur le mur de pierre, avait gravé, ça a pris du temps, gravé, il avait gravé les mots résister. Résister dans toutes ces souffrances. Puis, c'est certainement beaucoup. Que quand tu arrives au bout, ça en a valu la peine. Puis, c'est pour ça. Mais un peu le plan, je vais vous donner un petit peu le plan de l'Épître avant de. C'est un plan que R.E. Harlow avait fait. C'est dans le chapitre 1, les versets 1 à 3. C'est un plus grand prophète. Le chapitre 1, les versets 1 à 3 nous parle d'un plus grand prophète, celui qui nous parle de la part de Dieu. Dans le chapitre 1, verset 4, au chapitre 2, verset 18, c'est un plus grand messager. Donc, c'est un plus grand messager. Dans le chapitre 3, les versets 1 à 6, c'est un plus grand serviteur. Chapitre 3, verset 1 à 6, c'est un plus grand serviteur. Dans le chapitre 3, les versets 7 à 4, 13, c'est un meilleur repos. Donc, le chapitre 3, verset 7. Au chapitre 4, verset 13, un meilleur repos. Dans le chapitre 4, verset 14, au chapitre 7, verset 28, une meilleure sacrificature ou un meilleur sacerdoce. Donc, le chapitre 4, verset 14 à 7, 28, une meilleure sacrificature. Dans le chapitre 8, verset 1, au chapitre 9, verset 22, c'est une meilleure alliance. Chapitre 8, verset 1. 9, 22, une meilleure alliance. Dans le chapitre 9, au verset 23, jusqu'au chapitre 10, verset 39, c'est un meilleur sacrifice. Donc, le chapitre 9, verset 23, au chapitre 10, verset 39, un meilleur sacrifice. Dans le chapitre 11, ben, c'est la foi qui nous est présentée. Puis les héros de la foi, un peu comme c'est un peu comme le tribunal de Christ, hein? Il y a des bonnes choses à dire de chacun d'eux. On sait quand on regarde ces personnages-là qui sont mentionnés dans le chapitre 11, ils ont eu leur faille. Mais ici, ce n'est pas leur faille qui est mentionnée, c'est leur foi. C'est ce qu'ils ont fait pour le Seigneur qui sont mentionnés. C'est comme le tribunal de Christ. Chacun recevra de Christ la récompense qui lui est due. Et dans le chapitre 12 au verset 13, ben, c'est toujours la partie pratique de l'Épître. Ici, c'est comment doivent vivre les chrétiens. Comment doivent vivre ceux qui sont sur ce chemin-là, qui sont engagés sur cette route-là. Fait que je m'arrête tout de suite pour vous laisser l'opportunité de pouvoir faire des commentaires ou des questions. Puis ensuite, OK. Fait que je vous donne la possibilité de prendre votre micro. Puis je m'arrête là.
Merci beaucoup, Gérald.
Ah, Seigneur vous bénisse.
Oui,
Pour
merci.
quelqu'un qui questionne la divinité de Jésus, eh bien, si on regarde le chapitre 1 d'Hébreux,
Frère Olivier, donc vite.
comme le chapitre 1 de l'Évangile de Jean, eh bien,
C'est
c'est
tout.
très, très clair que
Oui,
Jésus, eh
ça va
bien,
être.
est vraiment Dieu, hein?
Ah,
Oui.
c'est sans équivoque.
Oui.
C'est sans équivoque, on le voit parce que même comme les témoins de Jéhovah dans leur Bible, ils ont changé le verset quand le Père appelle le Fils Dieu, quand il lui dit ton trône, ô Dieu, est éternel. Eux, ils ont changé pour dire Dieu est ton trône pour l'éternité. Dans le verset 8, mais il a dit au Fils ton trône, ô Dieu. Donc, c'est le Père ici qui appelle le Fils Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as aimé l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Donc, on voit ici le Père appeler le Fils Dieu. Mais eux, ils ont changé dans leur traduction du Nouveau Monde. Ils disent, Dieu est ton trône pour l'éternité. Mais moi, je leur dis, j'aime pas votre traduction parce qu'elle met le Seigneur Jésus au-dessus du Père. Ben, ils disent, ben non. Ben, j'ai dit, ben oui, ben, qui est le plus grand? Le trône ou celui qui est assis sur le trône? Vous, vous faites que Dieu est son trône, puis lui s'assit sur le trône. Mais j'ai dit, moi, je crois qu'il est égal. Il n'est pas supérieur, il est égal. Fait que là, il n'y a pas tellement ça que ça. Mais c'est sûr, oui, comme tu dis, David, c'est sans équivoque que le Seigneur Jésus est Dieu, le Dieu éternel manifesté dans la chair.
Commentaire, Gérald, l'épître aux Hébreux me fait toujours penser que Dieu a acquis de sa personne l'humanité parfaite. Il est venu sur la terre, il a marché parmi nous. Puis il est remonté dans le ciel. Puis c'est pour ça qu'on peut se présenter devant Dieu, parce qu'on va être transformé. Mais de savoir qu'il a ajouté à sa perfection le fait d'être un homme parfait,
Ouais.
ça me dépasse un peu, là.
Ouais, moi aussi. Oui, certain. Ouais. Ouais, il est devenu quelque chose qu'il n'était pas. Ça, c'est, il est devenu un homme. Il demeure un homme, mais un homme parfait. Il va apparaître une seconde fois sans péché.
L'Épître aux Hébreux, c'est certain que c'est très enrichissant pour les Juifs qui sont nés nouveaux. Mais chacun de nous, on peut dire, c'était une épître fameuse. Hein?
Ah
Le
oui.
jour où on s'est
Oui.
tourné vers l'Évangile, qu'on a commencé à lire Hébreux, un livre extraordinaire.
Ah oui.
Hein?
Ouais.
C'est vraiment une bénédiction, ce livre-là.
Ouais.
Et merci, Gérald,
Oui.
depuis que je te connais, là, à travers les présentations, tu nous invites toujours à s'approcher de Jésus comme
Ouais.
c'est fameux, Gérald.
Ouais.
Tu nous pousses dans le dos, Gérald. En tout cas,
Ouais.
moi, personnellement,
Ouais. C'est
là,
bizarre, vous m'entraînez.
depuis que je te connais, là, tu me pousses fort dans le dos.
Ouais, c'est bizarre, vous m'entraînez. On s'exhorte réciproquement, puis c'est vrai qu'il faut garder les yeux sur Jésus. On ne peut pas se tanner du Seigneur Jésus, parce que si on se tanne du
Merci.
Seigneur Jésus, qu'est-ce que ça va être dans l'éternité?
Merci beaucoup, Gérard.
Ouais. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Il n'y a pas mieux que lui.
Dans
On...
l'Épître
Oui, de Noël.
aux Hébreux, tu l'as mentionné, c'est mentionné souvent de ne pas se détourner. Il y a plusieurs endroits, c'est mentionné de ne pas se détourner. Puis il y en a qui vont se servir de ces versets-là pour dire qu'on peut perdre notre salut. Et pourtant, la parole de Dieu est claire que le salut ne peut pas se perdre. Et comme tu l'as dit au début, l'Épître aux Hébreux est adressée à des Hébreux qui font profession de foi.
C'est ça,
Pas tous ceux qui font profession de foi et qui sont sauvés. Il y en a qui vont se détourner. Mais c'est clair que, selon la parole de Dieu, on ne peut pas perdre notre salut. C'est le
non.
Seigneur qui nous garde. C'est pas nous autres qui se gardent. C'est le Seigneur qui nous garde.
C'est lui qui s'est engagé de nous amener au but. Il est le chef et le consommateur de la foi. C'est lui qui l'a suscité, c'est lui qui va l'amener à la perfection. Puis... Mais on ne peut pas perdre notre salut, mais on peut perdre la joie de notre salut. C'est ça qui est... Ouais. C'est triste. Comme je disais à mon petit-fils qui a professé le salut, puis ça, puis il disait ça, il dit, quand je me tiens proche du Seigneur, j'ai de la joie, puis quand je m'éloigne, j'en ai pas. J'ai dit, c'est certain. Tu peux pas perdre le salut, mais tu peux perdre la joie de ton salut. Si tu... Ils disent, ben, comme ça, si c'est comme ça qu'on est sauvé, puis on est sûr de ne pas être perdu, ben, on peut vivre comme on veut. Non. Non, on ne peut pas vivre comme on veut. Parce que si on vit comme on veut, en se détournant du Seigneur, on n'aura pas de vie heureuse. Ça va être une vie de malheur parce qu'on a connu mieux. Puis, il faut rester attaché au Seigneur de tout notre cœur. C'est ça la vraie vie. Donc, on est arrivé à notre but. On va peut-être terminer par un mot de prière. Puis ceux qui doivent partir vont pouvoir partir. Puis s'il y en a qui veulent jaser, on peut jaser. Seigneur, notre Dieu, on te remercie parce que, oui, Seigneur, tu nous as donné ton Fils. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, oui, ce qu'on veut en regardant dans ta parole, c'est d'y voir ce qui concerne ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, de l'apprendre, Seigneur, puis de goûter comment il est bon, afin qu'on ne s'endurcisse pas par la séduction du péché pour se détourner de la source de la vie. Seigneur, on te remercie infiniment pour tout ce que tu nous montres dans ta parole, puis on te demande, Seigneur, ton aide, ta bénédiction sur notre étude, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.